seconda, o prima seconde, o prima pars. Oui, ça fait comme ça tout. C'est comme ça qu'on désigne. Hein. Puis vous mettez la question, puis vous mettez l'article. Puis de temps en temps, vous mettez la réponse à l'objection. Ad primum. Ici, il n'y a pas d'ad primum, tu vois. Ça ne vous intéresse pas directement. Il faut savoir ça. Et vous retrouvez tout de suite dans un tome comme ça. Alors, cette question 31, vous voyez bien, c'est la tertia. C'est donc le traité sur le Christ. La question 31, c'est cette question sur la formation du corps du Christ. Le corps du Sauveur. La théologie du corps, elle est dans la question 31. Ceux qui veulent s'intéresser, et par le fait même qu'il y a une théologie du corps, il y a une philosophie du corps. Et le Saint-Père nous demande de faire une philosophie du corps qui n'existe pas dans la scolastique. Alors, vous voyez, après avoir parlé de la mère de Dieu, il nous faut maintenant traiter de la conception en vertu de laquelle elle a donné un corps sauveur. Nous considérons successivement la matière dont ce corps a été conçu, l'auteur de cette conception, le mode et l'ordre suivant lesquels s'est faite cette conception. Il y a trois questions successives touchant le corps du Sauveur. Nous poserons 8 questions. Oui. Toujours l'analyse de saint Thomas. Hein. La chair du Christ a-t-elle été prise d'Adam ? Question que les théologiens ne se posent plus beaucoup aujourd'hui. Mais la question du Moyen-Âge, y a-t-il une dépendance d'Adam à Jésus ? Est-ce que la chair du Christ dépend de celle d'Adam ? Hein ? Qu'est-ce que vous répondez ? Article 2, a-t-elle été prise de David ? Descendant de David. La généalogie du Christ a-t-elle été bien établie par les évangélistes ? Le Christ devait-il naître d'une femme ? C'est ce qui nous intéresse ici. Article 4. Article 5. Son corps devait-il être formé du sang le plus pur de la Vierge ? Alors, si cet article 5 que nous regardons maintenant, saint Thomas se réfère à saint Jean Damascène comme autorité. Saint Jean Damascène écrit que le Fils de Dieu s'est édifié pour lui-même du sang le plus chaste et le plus pur de la Vierge, une chair animée d'une âme raisonnable. Et dans le corps de l'article, voici ce que dit saint Thomas. On vient de le dire, dans la conception du Christ, ce qui est conforme aux conditions de la nature, c'est que le Christ est né d'une femme. Ce qui dépasse la nature, c'est qu'il soit né d'une vierge. Or, comme le prouve Aristote, parce qu'il fait rugir les gens, hein, mais quand saint Thomas est complètement... Je ne peux plus me servir de saint Thomas, puisqu'il s'appuie sur Aristote là-dessus, et que tout ce que dit Aristote là-dessus est complètement périmé. De mur qui dégringole. Hein. C'est intéressant de voir si c'est vrai. Or, comme le prouve Aristote, voici quelles sont les conditions de la nature dans la génération d'un corps. La femme lui fournit la matière et l'homme en est le principe actif. Ça, c'est toujours la conception d'Aristote. C'est que dans une opération unique, il y a acte et matière, forme et matière. Acte et puissance. Donc il faut bien. Or, il y a deux principes pour une génération, pour une procréation. L'homme représentera le principe actif et la femme, le principe, la mère, le principe matériel. La femme, lui, fournit la matière et l'homme en est le principe actif. En outre, la femme qui conçoit par l'action d'un homme ne reste pas vierge. Ainsi donc, dans la génération du Christ, le mode surnaturel de sa conception consiste en ce que le principe actif en a été la puissance surnaturelle de Dieu, et son mode naturel en ce que la matière dont a été conçu le corps du Christ a été semblable à celle que fournissent les autres femmes, les autres mères, dans toute conception. Or, d'après le philosophe, vous voyez deux références à Aristote. C'est pas folle de faire appel aux païens pour expliquer la conception du Christ. Or, d'après le philosophe, cette matière, ce n'est pas n'importe quel sang de la femme, mais le sang d'une transformation ultérieure due à la puissance générative de la mère rend apte à la conception. C'est donc d'une matière semblable que le corps du Christ a été conçu. Alors, on vous renvoie à quelques petites notes particulières de l'auteur, qui dans le cas c'est le père Sinave. Prise à la lettre, cette opinion pourrait créer quelques difficultés. Entendue au sens général, elle demeure juste. Persinave, qui était un exégète, un bon exégète, quand il nous a fait, je l'ai eu comme professeur, quand il nous a fait Saint-Jean, je vous ai dit, il avait donné cet exemple particulier. Surtout ne cherchez pas l'or dans Saint-Jean. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Parce que maintenant, du haut du ciel, je suis persuadé qu'il est d'accord. Entendu au sens large, elle demeure juste. Les organes générateurs de la femme exercent en effet sur le sang qui les irrigue un travail spécifique en vertu duquel ce sang va se muer en ovule. Quoi que l'on ne puisse... Il faut faire un petit peu attention. Hein. Mais il passe de la théorie philosophique à la théorie scientifique. Attention, ne mêlons pas les deux lumières. Et c'est très intéressant, c'est un exemple particulièrement intéressant, si vous voulez. C'est à propos de la procréation, et puis ça regarde toute la science moderne. C'est ce qu'étudie le frère Pascal pour sa thèse philosophique, c'est essayer de comprendre si la science moderne bouscule tout ça. Ou si la vision d'Aristote au point de vue philosophique est juste. Alors, c'est un cas particulièrement intéressant, surtout quand il s'agit de la Vierge Marie, de sa maternité et du corps du Christ. Parce que la science ne regarde que le conditionnement et ne peut regarder que les dispositions, le mesurable. La philosophie essaie de saisir la finalité. Oui. C'est ça la très grosse difficulté quand on est en face des rapports de la philosophie et de la science. Et à Rimont, ils essaient de reprendre en séminaire, et c'est intéressant, je leur avais demandé de faire ça, les degrés du savoir de Maritain. Pour que nous puissions, nous, essayer petit à petit de faire un livre sur les degrés du savoir au plan philosophique et au plan scientifique. Parce que ce que dit Maritain est intéressant, mais c'est souvent à côté. C'est pas juste. Donc ça demande d'être entièrement repris. Et pour ça, il faut un dialogue entre philosophe et savant. Mais s'il n'y a pas le dialogue entre les philosophes et les savants, on ne comprend pas. Je voyais récemment Jacques Vautier, qui est un de nos chers oblats, qui est doyen de la faculté des mathématiques à Henri IV, qui est un excellent matheux. Il faudrait qu'on puisse dialoguer un jour, pour le faire venir ici, entre les rapports de la science et de la philosophie. On l'a déjà fait une fois à Raymond, mais c'est intéressant. C'est des problèmes très très difficiles, mais qui sont capitaux aujourd'hui. Alors, on voit très bien ici la perspective du père Synave. Quoi que l'on n'en puisse pas parler rigoureusement de sang très pur, comme s'il était une qualité particulière, on peut dire qu'il s'agit d'un sang providentiellement différencié. Mais ça n'explique rien. Vous n'avez rien. Mais je vous le dis simplement parce que c'est de fait quelque chose d'intéressant comme note. Bon, vous voyez, saint Thomas fait directement allusion à Aristote. Regardons Aristote. Aristote de la génération des animaux. Un traité intéressant de la génération des animaux. Vous pouvez regarder sans Aristote au livre donc, de la génération des animaux. Iri Zoinon Geneseos. Il faut le dire en grec, hein, de la génération des animaux. Alors, livre 2, chapitre 4, 738b, 10 et suivant. Alors, ça s'écrit comme ça. Hein. Parce que c'est la nominale, pour connaître ces nominales, la manière dégénérationnée. Allemande. On n'a rien fait de mieux depuis. L'édition Becker qui prête tous les textes d'Aristote. Oui. Alors toutes les traductions de la belle lettre se réfèrent à ça. Étant Becker, vous n'avez que le grec. Donc ceux qui savent le grec doivent toujours aller à Becker. C'est beaucoup mieux. Alors depuis Becker, il y a des nouvelles éditions, surtout anglaises. Critique. On a réédité pratiquement tous les livres d'Aristote. L'édition critique qui corrige Becker. Donc si on veut faire un travail scientifique, c'est pas suffisant Becker, il faut mettre en note les petites variantes. Hein. Ceci, ça fait partie de l'information. Il faut savoir ça. Comme on ne vous en donne pas beaucoup, il faut quand même le faire de temps en temps pour que vous sachiez quand vous êtes en face. Saint Thomas, Aristote, au moins savoir noter. Et vous référer, vous renvoyer. Vous mettez ça en note. Alors, je vous lis ce texte. Il y a à boire et à manger. C'est ça qui est très intéressant dans la générationnée et les parties des animaux. Quand vous avez envie de vous reposer un peu pendant les vacances, lisez les parties d'animaux d'Aristote. C'est extraordinaire. Une dégénérationnée. Mais il y a à boire et à manger. C'est la soupe du samedi. Des grosses pommes de terre, un bout de viande, des tas de choses comme ça. On retrouvait, tiens. Et c'est vrai, ça demanderait d'être entièrement repris avec le progrès de la science d'aujourd'hui. Parce que la science d'aujourd'hui ne nous donne pas les principes, mais purifie une vision un peu trop globale. La science analyse la cause matérielle des dispositions, ce qui est mesurable. Et donc, tu as des tas de détails sur ce qu'Aristote connaissait très peu. Et Aristote a eu un laboratoire pour les animaux, mais c'était assez élémentaire. C'était assez curieux. Et Aristote l'a fait, c'est le premier laboratoire au point de vue biologique. On a toujours dit qu'il avait fait ça parce que son père était médecin. Il y a toujours l'alliance des médecins et des philosophes. Hein. Mais alors, les philosophes donnent une science biologique, une philosophie des animaux. La philosophie des animaux, c'est la philosophie du vivant, de l'homme. Et de là, on projette sur les animaux. Donc on parlait avant de ce que représentait le rôle du mâle, le rôle de la femelle. La raison pour laquelle les mâles n'ont pas tous de résidus générateurs, alors que toutes les femelles en ont, c'est que l'être vivant est un corps animé. Or, toujours, la femelle fournit la matière, le mâle le principe créateur. Le principe créateur, c'est pas créateur, hein, le principe actif. C'est le principe actif. Donc, Arétène, démiurgon, le démiurge. Oui, le mâle fournit le démiurge, c'est le principe actif. Faut pas dire créateur, parce que c'est pas tout à fait ça. C'est là, en effet, selon nous, la fonction propre à chacun d'eux. Et c'est cela, être femelle et être mâle. Oui, la définition de l'animal, femelle et mâle, se définissent en fonction des générations. C'est la vision des générations. Ça, c'est très, très significatif. Et c'est très intéressant. Vision philosophique. La femelle, l'élément matériel, le mâle, l'élément actif. Aussi est-il nécessaire que la femelle apporte au corps une certaine quantité de matière, tandis que pour le mâle, ce n'est pas nécessaire, car il n'est pas nécessaire que les outils existent dans les produits qui se fabriquent, ni qu'il existe l'agent qui les fait. L'analogie de l'art. Toute la philosophie du vivant chez Aristote se sert tout le temps de l'analogie de l'art. C'est très intéressant à noter ça. Parce que ça nous fait comprendre que la philosophie de la nature pour Aristote n'est pas première. Qu'est-ce qui est premier pour Aristote? C'est la philosophie de l'art. Parce qu'elle nous donnera les analogies les plus proches pour nous. Et de là, on transpose à la philosophie scientifique. Ce que la scolastique a complètement perdu de vue. Pour la scolastique, la philosophie de la nature est première pour nous. Alors que c'est la philosophie pratique qui est première pour Aristote et pour saint Thomas. C'est pour ça que je reprends l'ordre aristotélicien et de saint Thomas, en commençant toujours par le triangle de base. Le travail, l'amour d'amitié, le point de vue politique. Et c'est ça qui conditionne toute notre philosophie. Je ne dis pas la détermine, mais la conditionne. Et vous voyez, c'est très significatif. Aristote explique analogiquement la conception par le point de vue de l'œuvre artistique. Ça, c'est net, hein, vous ne pouvez pas le nier ici. C'est dit, et c'est constamment comme ça. Et c'est pas étonnant, parce que la distinction matière et forme est une distinction qui se fait en premier lieu à propos de l'œuvre artistique. Et on transpose cette distinction matière et forme en philosophie de la nature. Mais la philosophie de la nature n'est pas première génétiquement pour nous. Génétiquement, c'est la philosophie de l'art. Alors, ceci. Car il n'est pas nécessaire que les outils existent dans les produits qui se fabriquent, ni qu'il existe l'agent qui les fait. La poétique s'insère. Et le mâle est analogue à l'artiste. Et la femelle est analogue à la matière. La conception. Oui, le lieu où se fait la conception. Et pour Aristote, c'est capital. Le lieu où se fait la conception. Oui, ça, c'est une vision extrêmement importante qu'on est en train de défaire. Toute la question de la conception in vitro veut faire que ce qui est naturel, on puisse en remplacer par quelque chose d'artificiel. C'est là où je crois qu'il y a une erreur fondamentale au point de vue philosophique. parce que vous ne pouvez pas réaliser une causalité matérielle. La causalité matérielle est substantielle. Si la causalité matérielle est substantielle, elle est analogique. Et donc, vous ne pouvez pas la remplacer. Et on ne la remplacera jamais. Et on verra, au cours des âges, que de fait, ceux qui sont nés in vitro, il y a quelque chose qui manque. C'était ce que me disait la bonne réflexion de ce vacher. Il le disait par rapport à ses vaches. Il avait plus d'amour pour ses vaches que des quantités de biologistes, tant d'amour par rapport à l'homme. Parce que si on aimait vraiment l'homme, on ne voudrait pas un homme préfabriqué. On respecterait quelque chose qu'on sait qu'on ne peut pas faire. Il y a quelque chose que l'homme ne peut pas faire, c'est la causalité matérielle. La causalité matérielle est présupposée à toute activité artistique. Et la causalité matérielle est présupposée a fortiori pour le vivant. Et c'est la mère. On ne fabriquera pas une mère. On le sait bien du reste, on le sait bien. Mais on voudrait que ponctuellement, on puisse la remplacer. Et c'est ce qu'on fait actuellement. Ponctuellement, on la remplace. Parce que la matière, c'est le milieu vital. Or, un milieu vital, ça ne se fait pas naturellement. Ça ne peut pas se faire artificiellement. Et là, Aristote touche quelque chose de très intéressant. On n'a pas été plus loin. On n'a pas été plus loin, mais c'est ça qu'on a complètement oublié. On a complètement oublié ça. Voyez, et ça explique, pour saint Thomas, la possibilité de l'intervention de l'Esprit Saint dans la maternité divine de Marie, ce que l'Esprit Saint ne pouvait pas faire, vous voyez dans quel sens, remplacer, c'était la causalité maternelle. Dieu peut le faire, il n'y a pas la toute-puissance, mais alors c'est autre chose, c'est plus une conception humaine. Et vous voyez, et c'est ce que Israël, dans sa tradition religieuse, a très bien compris. On est juif si on est né d'une mère juive. C'est la mère qui donne l'aspect fondamental de l'individu. C'est pas le père. Et il y a toute cette vision-là. Alors quand on dit, enfin, c'est du côté matériel, oui. Du côté matériel, parce que c'est justement la causalité qu'on ne peut pas remplacer. Irremplaçable, c'est la mère. La mère ne peut pas se remplacer, comme dans l'éducation. On peut remplacer le père, mais la mère non. Et ça, les hommes le comprennent très bien, vous voyez. Quand il y a eu un accident, par exemple, une mère qui meurt laissant des jeunes enfants, le père sait très bien qu'il ne pourra jamais remplacer la mère. Tandis qu'une mère qui reste veuve peut d'une certaine manière remplacer le père. C'est très très curieux ça, mais c'est instinctif ça. Il y a quelque chose là qui est très important à voir et qui dépend de cette vision de la procréation. Et ça c'est vu d'une façon qui pour moi est très intelligente. Alors je continue. Car il n'est pas nécessaire que les outils, c'est très gros et c'est magnifique comme analogie, il n'est pas nécessaire que les outils existent dans les produits qui se fabriquent, ni qu'il existe l'agent qui les a faits. Le corps est fourni par la femelle, l'âme par le mâle. Ici, par les animaux, on parle pas de l'homme. Mais l'âme est l'essence d'un corps particulier. L'acuité, et l'âme et l'essence, c'est la substance en réalité. C'est Paul Psyché. Car parlam et ousia somatos, dinos esti. Donc on va dire essence, on va dire substance. Déjà, Véclave est essence. Pas une substance. Ça, il le dit. Elle est substance. Donc c'est elle qui actue, qui détermine. Alors, évidemment, ça, c'est très délicat. C'est très, extrêmement délicat. Mais on va essayer de comprendre. Et voilà pourquoi, donc, l'âme est l'ousia, la substance d'un corps particulier. Et voilà pourquoi, quand une femelle et un mâle de genres différents s'accouplent, c'est le cas des animaux dont les époques de rut coïncident, dont la durée de gestation est à peu près la même et dont la taille diffère peu. Ça, c'est tout à fait joli, la part d'Aristote, hein, de montrer ça. Et à la première génération naît un produit qui ressemble aux deux parents. Par exemple, les produits du renard et du chien. Renard, renard, chien. Un chien, renard. De la perdrix et de la poule. Mais avec le temps, et au bout d'un certain nombre de générations, les produits finissent par reprendre la forme de la femelle. Vous êtes observé. Observation. Et une reprise. Si la femelle est renard, le chien disparaîtra au bout d'un certain temps. Et c'est la femelle qui tient à mon. Oui, la continuité de l'espèce. La spice du lieu, du milieu. De même, alors l'analogie dernière, de même que les graines étrangères se modifient en fonction du sol. Les gens aiment beaucoup ça pour montrer qu'Aristote est évolutionniste ou matérialiste. Vous voyez, la graine doit se modifier en fonction du sol. Et c'est vrai au point de vue de la vigne. Ça se modifie en fonction du sol. Il y a des produits qu'on ne peut pas transplanter. La terre, ça ne se transplante pas. Transporter un Bourgogne, n'est-ce pas, en Amérique, en Californie, ça fait un Bourgogne très curieux. Californien. Qui au début c'était pas bon du tout. Petit à petit, la matière domine et ça commence à faire son produit très différent du Bourgogne, tout à fait autre. Très cru, oui, que la constatation. Ça, c'est pour montrer l'expérience d'Aristote. Hein. C'est la matière qui est déterminante. Bien qu'elle soit en puissance quand il s'agit. Très étonnant. Car c'est le sol qui fournit aux graines la matière, le corps. Et voilà pourquoi, dans les femelles, l'organe qui reçoit la semence n'est pas un canal, mais un de cet organe possède une certaine. C'est un milieu, c'est un lieu. Donc, ça finalise. Dans la conception, la femelle, qui est le milieu, la cause matérielle, le lieu finalise. Au point de vue du corps. Et donc, joue un rôle principal. Contrairement à tout ce qu'on a pu dire, hein. Alors, je reprends encore cet autre passage, livre 4, chapitre 1, 765b, disait suivant. Et de plus, le mâle et la femelle se distinguent par une certaine puissance, ou un certain manque de puissance, en effet. Puissance dunamis, hein. C'est pas la puissance, l'être en puissance, c'est la dunamis. C'est ça l'équivoque constant, il faut toujours regarder le grec. Dunamis, c'est la virtus, ça se traduit en latin virtus. Donc, c'est la capacité, c'est pas la puissance d'être en puissance. En effet, que ce qui est capable de réaliser une coction, de faire prendre forme et d'émettre un sperme qui contienne le principe de la forme, c'est le mâle. Par principe, j'entends non pas l'origine, d'où vient, comme d'une matière, un produit semblable au générateur, mais le premier moteur qu'il puisse exercer cette action en lui-même ou dans un autre être. Mais c'est la dynamis, c'est le principe. Et le mal, c'est la dynamis. C'est ce qui détermine. Mais attention, c'est ce qui détermine d'une manière très particulière, qui fait que si cette détermination n'est pas conforme pleinement en harmonie avec la matière, petit à petit la matière l'emporte. C'est très très curieux. Ce serait très intéressant par rapport à l'évolution. Est-ce que c'est pas ça qui explique l'évolution? C'est pas l'évolution en réalité, c'est la victoire de la matière par rapport au démiurge, par rapport au principe, à la dynamis. Donc, j'entends non pas l'origine, le principe, d'où vient, comme d'une matière, un produit semblable au générateur, mais le premier moteur qu'il puisse exercer cette action en lui-même ou dans un autre. Au contraire, ce qui sert de réceptacle, le réceptacle, c'est toujours la matière. Donc, c'est pas la pure puissance, c'est le réceptacle qui reçoit comme le lieu. Au contraire, ce qui sert de réceptacle et ne peut donner une forme ni émettre de sperme et la femelle. Comme de plus, toute coction agit par le moyen du chaud. Il est nécessaire aussi que chez les animaux, les mâles soient plus chauds que les femelles. C'est parce qu'elle est froide et manque de puissance que la femelle a beaucoup plus de sang dans certaines parties du corps. Et cette abondance de sang a une signification inverse de celle que lui donnent ceux qui croient que la femelle est plus chaude que le mâle parce qu'elle a des règles. Le sang est chaud, pense-t-il, et l'être qu'un davantage est plus chaud. Donc, voyez qu'Aristote, au plan philosophique, comprenons bien, c'est pas au plan descriptif, au plan philosophique, Aristote essaie de comprendre la coopération de deux principes, la femelle et le mâle. Bon, la science moderne se place au niveau du mesurable, donc pas du tout au même plan. Aristote analyse les principes. Et l'analyse des principes, ça fait toujours matière et forme. On est dans l'ordre physique. Acte et puissance. Comprenez bien ça. C'est important parce que on revient tout le temps là-dessus. Alors il s'agit de bien voir l'analyse. Donc forme, matière, nature. Forme, nature, matière. La forme est l'acte principal. La matière, principe, passif. C'est un principe, hein, passif. Ce principe passif, matière, est pour la formation du corps le lieu naturel, le lieu maternel. Qui dit lieu, dit fin. Ça finalise le lieu, toujours, point de vue physique. Le lieu finalise. Et donc joue un rôle plus important que l'élément forme, actif. Parce que c'est un lieu d'immanence. C'est ça que veut dire Aristote. Un lieu d'immanence. Alors évidemment, la détermination première, la plus visible, sera le principe actif. Mais la détermination la plus profonde en durée, c'est le lieu. Alors c'est là où je dis, vous voyez, on peut artificiellement séparer le principe actif, le sperme. On peut le séparer beaucoup plus facilement que l'élément maternel qui, lui, est lié à la matière, à l'immanence de la matière. La matière est immanente. Et c'est le lieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas le séparer. On ne peut pas créer une matière artificielle. Pourquoi ? Parce que la matière est liée à quelque chose de substantiel et de principe. Vous allez me dire, la forme est aussi substantielle dans la génération de l'animal. C'est vrai. Elle touche une forme substantielle. C'est sûr. Mais une forme substantielle qui se détache de l'animal et qu'on peut d'une certaine manière canaliser dans la génération, dans le point de vue de la fécondation artificielle. On va séparer cet élément actif, forme substantielle, qu'élément actif, du point de vue de l'animal proprement dit, source. C'est déjà dangereux. Philosophiquement parlant, hein, c'est déjà dangereux. Pourquoi ? Parce que toute action vitale implique que la source soit conjointe à l'efficience. Mais il y a une espèce de conjonction, là on sépare. C'est possible, mais on ne sait pas exactement ce que ça peut faire. Quant à l'élément matériel, on ne peut pas le séparer. Et on essaie. On voudrait bien. Oui. On voudrait bien arriver à faire une procréation, une génération, in vitro, complète. Alors vous savez bien que toutes les expériences qu'on a faites, c'est qu'au bout d'un certain temps, ça s'en va dans des directions différentes. C'est très curieux. Alors, bon, pour les animaux, l'Église se tait. Sur la question, est-ce que, moi je me pose la question, hein, philosophiquement, est-ce que cette procréation artificielle est-elle une œuvre qui aide la nature, coadjuvans naturam, comme diraient les scolastiques du Moyen-Âge, une œuvre qui aide la nature, ou une exploitation, quelque chose qui détruit. J'ai posé la question à mon cher Bachet. Il a ouvert de grands yeux. Il m'a dit, mais je ne sais pas. J'en ai peur. Parce qu'il a dit, j'en ai peur. Et moi, très bien. Il y a une question qui se pose. Et on doit se poser la question. Ne pas se poser la question, c'est un manque total de prudence. Ce qu'on manipule. Et on ne sait pas. Or, la vie, même la vie animale, ne nous appartient pas. Est-ce que l'homme a un pouvoir sur la vie animale ? Ben, il peut tuer un animal pour le manger. C'est permis. Permis. Est-ce qu'il a un pouvoir ? Et jusqu'où va ce pouvoir ? Il ne sait pas. C'est absolument pas. Alors, de là, on transpose sur l'homme. Est-ce qu'on a le droit de le faire ? Est-ce qu'on a le droit de faire ça par rapport à l'espèce humaine ? Et là, l'Église dit non. Alors, ce qui met en fureur tous les chercheurs biologistes, sans vous arrêter le progrès. Non, l'Église a un devoir de garder l'espèce humaine dans son intégrité. Elle a la responsabilité. Alors, dernier petit mot, parce que c'est nécessaire, je ne vais pas revenir là-dessus. La science ne touche pas les principes. Donc ce que dit Aristote échappe complètement aux scientifiques. La science ne regarde que les dispositions. Il est bien évident que les dispositions existent aussi bien du côté du mâle que du côté de la femelle. Aussi bien du côté de la femme que du côté de l'homme. Les dispositions. Donc, au niveau scientifique, parler d'un principe passif et d'un principe actif n'a aucun sens. Au niveau scientifique, la science biologique, parce qu'on ne regarde que les dispositions, et les dispositions sont actives des deux côtés. Mais cela ne veut pas dire que la science supprime cette analyse philosophique. Il faut simplement être plus attentif à montrer que le principe actif et le principe passif a une signification philosophique et non pas scientifique. Et qu'au plan scientifique, on ne regarde que les dispositions. On ne peut regarder que les dispositions. Le principe ne se mesure pas. Donc, il est au-delà de la science biologique.